Bonjour, aujourd'hui, on parle du sujet très tabou de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Les liens sont disponibles dans le descriptif de cet épisode. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'accueillir deux invités qui font partie de mon cercle de rétablissement. Bonjour Jean-Claude Télémac et Marie-Pierre Morin.
Salut.
Bonjour Angelo.
Comment allez-vous?
Très bien ce matin.
Et moi, je suis fébrile. Là.
Moi aussi, je suis extrêmement fébrile. Ouais. On a plein de beaux sujets à discuter, entre autres d'un projet de cœur, un projet commun qu'on va lancer sous peu. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Marie-Pierre? Je te mets sur le spot.
Bon, tu me mets sur le spot. Mais en fait, on l'a devant nous. C'est le café Grain d'espoir qui vient aussi avec le projet Petit Frère, qui est le podcast Grain d'espoir. Tout ça dans le but d'aider des dépendants à se rétablir. C'est pour ça qu'on s'est réunis tous les trois. Nous, on se connaît par l'entremise des Maisons Pélado. Moi, c'est là que j'ai fait ma thérapie.
Exactement. Alors, tu sais, rétablissement, quand on parle de rétablissement, c'est qu'on se rétablit d'une dépendance. Pour ma part, j'ai 3 ans et demi de rétablissement et d'abstinence. Merci. Et je suis très fier d'en parler. J'ai d'ailleurs rencontré Jean-Claude, qui était intervenant aux Maisons Pélado lors de ma deuxième thérapie. Marie-Pierre, on s'est rencontrés comme ça dans une rencontre anonyme.
Ouais.
Je suis vraiment fier d'en parler aujourd'hui avec humilité. Puis de démystifier le sujet de la dépendance, qui n'est pas un sujet quand même très sexy, je crois.
Non. Mais en fait, c'était ça un peu l'idée, là, c'était de se joindre à la discussion, de parler chacun de notre vécu pour essayer ultimement de briser le tabou autour de la dépendance. Parce que on dirait que ça fait partie des problèmes que, tu sais, mettons, on se dit, si on ferme les yeux, peut-être ça va arrêter d'exister. Puis malheureusement, non. Puis la pandémie en est, je pense, un exemple concret que la consommation est bel et bien présente, qu'elle a été exacerbée dans la dernière année et demie. Il y a même des nouvelles aussi qu'on a entendu parler récemment. Carey Price qui a parlé de dépendance. Adele, la chanteuse aux États-Unis.
Oui, Jessica Simpson
en a parlé,
aussi,
Jessica
qui a fait
Simpson.
Une sortie.
Fait qu'on s'est dit pourquoi pas participer à cette discussion-là puis le faire ensemble et le faire pour une bonne cause.
Et aussi peut-être être un modèle pour des personnes qui souffrent de dire que effectivement, c'est possible de s'en sortir. Il y a des solutions. C'est pas facile, mais il existe des solutions. Et comme tu as dit, Marie-Pierre, d'ouvrir cette discussion-là, d'en parler avec humilité, sans avoir aucune prétention. Je détiens pas la vérité sur le rétablissement.
La bonne nouvelle, Angelo, c'est que toi, non, mais Jean-Claude, oui.
Alors, Jean-Claude, qui est ici à titre d'intervenant. Jean-Claude, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton background?
Oui, bien écoutez, moi, ben comme vous savez, là, je parle pour les gens qui nous regardent. Moi, je vous ai connu dans le contexte où vous aviez déjà demandé de l'aide, puis je fais partie de ce qu'Angela a si bien nommé, le rétablissement, c'est-à-dire l'après-thérapie. Parce que moi, je crois fondamentalement que toutes les thérapies sont bonnes, que vous alliez dans n'importe quel endroit. Elles ont toutes un but qui est noble, mais la vraie job commence la journée où on ferme la porte de la maison de thérapie puis qu'on retourne dans la réalité. Et je pense que le projet du Grain d'espoir, bien, va vraiment aider à ce qu'on puisse justement parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de déceptions, quelqu'un qui rechute, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, des choses comme ça. On va pouvoir en discuter, puis comme Marie-Pierre le disait, pour une fois, on va en parler. Au lieu que ça reste caché, mis en dessous du tapis, faire semblant que c'est pas là. C'est là. Malheureusement, si vous êtes pas au courant, moi, je vous annonce que dans votre famille, dans votre environnement, que ce soit au travail ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui vit avec ce problème-là, puis qui peut-être demande pas d'aide parce qu'il sait pas comment. Vous voulez pas l'aider, même si vous voyez qu'il y a une perte de maîtrise, que c'est... Il y a quelque chose qui cloche avec lui, vous ne savez pas comment l'aborder, mais c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble.
Alors, pour revenir en arrière, Jean-Claude, tu as quand même plusieurs années d'abstinence, de rétablissement. Est-ce que tu peux nous en parler?
Bien, c'est sûr que moi, une des choses que je trouve le fun, c'est que nous trois, présentement, ce matin, on représente probablement une image autre que celle que les gens se font de personnes qui ont le problème d'alcoolisme, toxicomanie, appelez-le comme vous voulez. Nous, on l'a résumé avec le mot dépendance qui inclut tout. Moi, je suis fils de médecin. Je viens d'une super bonne famille. Je suis allé à l'école privée à Outremont. J'ai jamais manqué de rien. Et malgré tout, quand les substances sont arrivées dans ma vie, ça a déclenché quelque chose qui fait que, éventuellement, ma maladie a progressé. Là, je viens de dire le mot maladie.
Oui. Et c'est le mot qu'il faut pas dire. C'est comme Voldemort.
Mais c'est quand même reconnu comme étant une maladie par l'Organisme de la Santé mondiale.
Oui. Et on en a parlé en rencontre avant. Ouais. On veut rien cacher, je pense. Nous ne voulons rien cacher. Je m'inclus là-dedans. Et je veux que ça soit clair que si on utilise le mot maladie, c'est pas une excuse pour nos comportements, pour les choses qu'on a faites. Et c'est pour ça que finalement, c'est sorti là.
Juste pour revenir en arrière, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, Jean-Claude, t'as soulevé les différents visages de la maladie et de la dépendance. Puis,
C'est ça qu'on a écrit derrière le sac, en fait. Grain d'espoir est un projet qui a pour mission d'amasser des fonds pour lutter contre la dépendance. Que ce soit l'alcool, le jeu, les drogues, le sexe, l'alimentation ou autre, la dépendance est un sujet tabou dont on entend peu parler. Fait que c'est ça. Ça décrit vraiment bien la mission du projet. C'est de montrer les différentes substances ou comportements qui peuvent devenir problématiques et aussi les différents visages. Moi, je trouve, c'est ça que tu disais, puis je reviens un peu sur tes paroles, qu'on est un bel échantillonnage. Parce que quand tu rentres dans un meeting, de peu importe la fraternité anonyme où tu vas, tu fais le saut. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, là, j'ai été étonnée parce que tu arrives, puis là, on dirait que dans les films ou dans dans l'univers fictif qu'on se fait des salles de meeting, t'arrives puis c'est 3-4 vieux alcooliques, café,
tu sais,
oui, puis tu sais, des ivrognes, puis c'est un peu ça aussi c'est ça, parce que quand tu rentres dans une salle de meeting chaude du coca-land, ça sent le café, parce qu'il y a toujours du café, fait qu'on trouvait que c'est le fun, puis quand quelqu'un file pas, t'as le goût de prendre un café.
On dit toujours viens prendre un petit café.
C'est ça. Santé, les amis.
Cheers.
Mais donc, c'est ça. C'est pas juste des vieux ivrognes qui parlent de leurs années de consommation. C'est vraiment des gens de tout acabit qui sont là pour essayer de trouver une solution concrète. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup puis qui m'a donné espoir quand je suis arrivée. C'est qu'il y a pas de meilleure personne qu'un dépendant pour en aider un autre à se rétablir. Puis ça fait énormément de sens parce que tu parlais de la maladie tantôt, le mot Voldemort. Il y a quand même un dénominateur commun à tout ça, à chaque personne qui est atteinte de cette maladie-là, et c'est la souffrance. Fait que, oui, la substance fait partie du problème. En thérapie, on nous explique la fameuse théorie du iceberg du 85-15. Donc, la pointe de l'iceberg étant la substance, le 15%. Mais en dessous, c'est les comportements, c'est le 85%. Mm-hmm. Fait que tu peux facilement te débarrasser de la substance puis pas faire le travail de fond et rester problématique.
Bien, ce qui est la différence, et j'ai beaucoup aimé dans l'introduction d'Angelo, c'est qu'il y a l'abstinence et le rétablissement.
L'abstinence
ouvre la porte au rétablissement. Je connais personne avec mon expertise qui se rétablit en continuant à consommer.
Mm-hmm. Ouais.
Il faut vraiment commencer par ça.
Et quand on parle d'abstinence, là, concrètement, Jean-Claude, parce qu'on a parlé, il y a différents visages à l'alcoolisme. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi un alcoolique? C'est quoi la maladie de la dépendance? Tu sais, comme, je sais qu'il y a des signes, là, il y a des choses que tu peux... tantôt, tu as parlé, il y avait trois choses là, en préambule. On a discuté de ça.
Bien, une des équations qui est beaucoup utilisée au niveau universitaire, moi, c'est là que je l'ai appris, qui explique bien c'est quoi la dépendance. D'abord, pour qu'il y ait officiellement l'étiquette dépendance, il faut qu'il y ait une perte de maîtrise. Mm-hmm. Donc, une perte de maîtrise dans le sens que notre comportement nous amène à faire des choses qui sont contre nos valeurs. Autrement dit, on ne ferait jamais ces choses-là s'il n'y avait pas de consommation. La consommation n'excuse pas ça, par exemple, parce qu'on a le choix de consommer ou pas. Mais il y a des trucs qui sont apparents, qui sont évidents, et c'est là aussi que l'entourage est témoin de ces choses-là. Tu sais, on travaille fort à les cacher, mais... Si un entourage de proximité, on parle conjoint, conjointe, parents, puis où il y a un lien fréquent, il y a quelque chose qui va changer dans l'attitude de la personne. Donc là, c'est les premiers signes. Pour moi, la dépendance, ce qui est important de décrire, c'est que ce n'est pas un problème de substance, comme Marie-Pierre l'a dit, le 15 %. Si ça serait ça, bien, tout le monde qui va à la SAQ, c'est un alcoolique. Tout le monde qui va à la SQDC, c'est un dépendant au cannabis. Non, c'est la substance avec l'individu. L'individu, c'est autant le milieu de où on provient qui est... on ajoute à ça une difficulté à s'adapter socialement. Donc, on va consommer la substance et tout d'un coup, on va se sentir mieux. Mais là, à ce moment-là, c'est notre porte de sortie, notre go-to thing pour être capable de fonctionner après ça dans la société. Donc, l'habileté de sociabiliser, bien, on ne l'aura jamais apprise. Mais on va prendre une substance qui va nous aider à nous sentir plus à l'aise.
Bien, qui va nous donner l'illusion qu'on est capable.
Et voilà, c'est ça le problème. Ouais. C'est pour ça que cette maladie-là, selon certaines lignes de pensée, c'est une maladie qui est progressive. Parce qu'à un moment donné, d'abord, il y a le phénomène d'accoutumance. Donc, si on consomme telle quantité pour avoir tel résultat, éventuellement, le résultat ne sera pas atteint avec cette quantité-là. Donc, on va devoir en consommer plus ou on va devoir changer de substance pour en découvrir une qui va plus rapidement faire ça. Donc, ça fait partie de la progression de la maladie. Les deux premiers éléments, c'est la substance, l'individu et aussi l'environnement. Angelo, on en a parlé, puis il m'a donné la permission de pouvoir citer ça. C'est un exemple parfait. Il y a un frère jumeau. Donc, c'est pas au niveau de l'ADN. On peut mettre beaucoup d'énergie à essayer d'expliquer le pourcentage de génétique qui ferait ça. Il y a un frère jumeau, lui, a la dépendance et son frère ne l'a pas.
Ouais. Puis élevé dans le même contexte.
Même parents, même contexte, ouais. Même famille, même école, j'imagine, et ouais. Tout.
Même environnement.
Exact.
Donc, c'est pour ça que c'est la somme de tout ça. Donc, ça, si on a à retenir la dépendance, d'abord, il y a une perte de maîtrise. Et oui, ça implique une substance ou des substances ou des comportements. Parce que la dépendance, moi, ce que j'aime beaucoup du projet, puis quand vous m'avez approché, ça m'a beaucoup touché, c'est que la dépendance, aujourd'hui, elle est beaucoup plus large. Il y a moyen d'avoir une perte de maîtrise de sa vie sans consommer d'alcool, sans consommer de drogue.
Ben, j'ai le goût de dire... d'emblée, les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux,
c'est, t'enlèves un téléphone à un jeune, puis tu dis tu y vas pas.
Ben, t'as pas besoin de regarder les jeunes, là. Regarde-moi.
Ah, mais oui, non, mais il y a des gasquettes qui se pètent à gauche, à droite, parce que ça devient un automatisme, oui. Là. Ma mère, elle appelle ça faire du petit pouce. Oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est que tu deviens comme possédé, oui. J'appelle ça le vortex. Mm-hmm. Tu te fais comme aspirer, puis t'es plus capable d'arrêter. Fait que ça, c'est une perte de maîtrise.
Ben, c'est ça.
Puis ouais. C'est quoi la perte de maîtrise? Parce que si on parle concrètement pour nous, moi, je parle de mon expérience. Pour moi, quand j'ai réalisé que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, alors que j'avais rien perdu au niveau des
monétairement,
affaires.
Monétairement.
Wow. Monétairement, j'avais l'air d'être en contrôle. La business allait bien. Donc, mais c'est quoi la perte de la maîtrise? Pour moi, c'était de mettre mes valeurs, qui sont les plus fondamentales, les plus chères, de mettre ça de côté et de choisir de consommer. Exemple, j'avais une fille qui était en bas âge, mais au lieu d'être avec elle, de passer du temps de qualité, je m'en allais consommer avec des amis. Puis je revenais à la maison très tard ou le lendemain. Donc, pour moi, c'est là que c'était rendu un problème.
La honte qui vient avec le lendemain, de te faire raconter des soirées, parce qu'évidemment, vu que moi, j'avais pas la maîtrise sur ma consommation, je faisais souvent des blackouts. Puis là, tu te fais raconter des affaires, puis là, t'es comme... Mais c'est pas moi, ça. Mm-hmm. Moi, dans la vie, ça fait pas partie de mes valeurs. Ça fait pas partie de comment je me définis en tant qu'humain. Puis là, tu me comptes ça, puis je suis pas d'accord avec ça. Fait que c'est à ce moment-là où tu réalises qu'il y a réellement un problème parce que tu ne te reconnais pas.
Ouais. C'est aussi quelque chose dont on parle quand on parle de progression de la maladie.
Ouais.
C'est que cette culpabilité-là que tu viens de nommer, le lendemain matin, souvent, on ne réalise pas qu'on... D'abord, à 6 heures le soir, ce n'est pas un plan d'aller perdre la maîtrise de notre
vie
et de faire des conneries, parce que je pense que la plupart des gens sains d'esprit ne feraient pas ça. Mais à un moment donné, ça arrive, puis ça arrive de plus en plus fréquemment. Puis là, on parle de conduire sa voiture en état d'ébriété, de conduire sa voiture avec peut-être pas un état d'ébriété, mais
quelques
en étant
à jeun, ouais.
Et avec nos enfants dans la voiture, genre de choses comme ça. quand on se réveille le lendemain, soit on nous l'apprend, comme tu viens de le mentionner, ou soit on fait juste réaliser ce qu'on a fait. Et malheureusement, dans la plupart des gens qui sont alcooliques, toxicomanes, la chose la plus intelligente qu'on trouve à faire le lendemain matin, c'est de reconsommer pour essayer de pas sentir ce malaise ou ce mal-être-là.
Puis ce sentiment de honte qui t'habite.
C'est ça. Et c'est un cercle vicieux. Puis une fois qu'on est rentré dedans, c'est là, bon, tu parlais du 15 %, c'est ça les 15 % de la maladie.
Mais
c'est
pour ça. Il y a quelque chose aussi, Jean-Claude, c'est que c'est très insidieux.
Oui.
Dans le sens que ça se peut qu'à un moment donné, dans ta vie, tu aies été capable de consommer de façon tout à fait normale.
Ah, mais oui.
Je ne pense pas que du jour au lendemain, je suis alcoolique. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment? Des gens qui disent, de par leur expérience, ils ont bu normalement pendant 5 ans, puis là, tout d'un coup, la consommation augmente?
Bien, en général, moi, il faudrait se renseigner auprès de personnes qui travaillent auprès des ados, ce qui n'est pas ma spécialité, mais en général, il y a une progression. Puis il y a une progression où, disons qu'à l'adolescence, il y a quand même, bon, un encadrement en général, les parents qui nous aident à maintenir un certain équilibre.
Ouais.
Parce que la dépendance, c'est la perte d'équilibre.
Ouais.
Clairement, c'est ça. Ouais. Puis souvent aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des trucs qu'on sait qui sont... Tu sais, c'est dur de se dire « j'ai pas un problème de consommation », mais que tu appelles ton pusher et tu commandes de la cocaïne 3 fois par semaine. Tu sais, socialement, c'est pas accepté. Tu sais, mais d'aller à la SAQ chaque jour acheter une bouteille de vin, ça
oui.
L'est. C'est ça. Donc ça vient jouer.
Il y avait une chose qui m'avait vraiment impressionné, puis je sais pas pour vous, quand j'ai fait ma première thérapie au Maison Pelado, là, j'ai appris que l'alcool, c'était carrément un poison, puis c'est un des sevrages qui est le plus dangereux.
Ouais.
Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même méconnu, je crois, de la part du public. Est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout. Et les centres que moi, je connais, en tout cas, il y en a 2 où j'ai travaillé, qui a vraiment un département d'aide à la désintoxication physique.
C'est quoi parce la distinction, que... Jean-Claude, de désintoxication?
Bien, la désintoxication, c'est vraiment sortir la substance de notre corps. C'est se désintoxiquer. Non, il y en a qui font une désintoxication alimentaire. Ils choisissent le jeûne ou tout ça. Bon, c'est un petit peu le principe. Sauf que pour l'alcool, étant donné qu'il y a des répercussions, moi, ce que j'ai vu très souvent, c'est une déstabilisation au niveau de la pression. Donc, la haute pression, là, des chiffres faramineux. Donc, les maisons où moi, j'ai travaillé... On était prêt pour ça jusqu'à un certain niveau parce qu'il y a vraiment un niveau de désintoxication qui doit passer par l'hôpital. Mm-hmm. Et de plus en plus au Québec, moi, je suis très content de voir qu'il y a, on appelle ça des CRD dans le domaine, des centres de réadaptation en dépendance. C'est des unités qui sont prêtes pour négocier avec des gens qui ont des problèmes physiques, qui ont besoin d'une désintox et ça se fait en milieu hospitalier. Donc, c'est médicamenté pour aider justement
le
à contrebalancer.
Corps
c'est ça, tranquillement.
Parce que l'alcool, c'est un dépresseur.
Oui.
Puis on dit que ton corps va sécréter plus de dopamine. On ne rentre pas dans la science.
Non.
Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu arrêtes de boire, tu arrêtes de prendre ton dépressif, la dopamine, elle, continue à être dans le tapis. Donc, j'ai vu des gens quasiment en convulsion là, qui mm-hmm. essayaient d'arrêter de boire ouais. en maison de thérapie. Et là, c'est là qu'on les met sur un protocole de Librium, je crois.
C'est un des protocoles qui est utilisé. Nous, en tout cas, aux Maisons Pelado, parce que j'étais intervenant là, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Par contre, y a quelque chose que je vais éclaircir tout de suite. Disons la cocaïne. Le sevrage est psychologique. Il n'y a pas de sevrage physique de cocaïne. En général, encore là, mon expérience de terrain, ceux qui ont des gros problèmes de cocaïne, puis qu'elle soit consommée de n'importe quelle façon, donc que ce soit par le nez, par la seringue ou par la fumée, souvent, ils vont dormir pendant 3 jours. Les gens vont arriver, ils vont manger, dormir pendant 3 jours, le temps que le corps. Quand tu parlais des dangers du sevrage d'alcool, oui, il y a la partie dopamine et tout ça, mais il y a aussi une grosse partie qui est au niveau du foie. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en thérapie. La première chose qui se passe quand ils arrêtent de boire, c'est qu'ils maigrissent parce qu'il y a beaucoup de sucre dans l'alcool, puis on est enflé. Tu sais, bon, du côté des gars, moi, je travaillais du coup avec les hommes au pavillon Pierre Pelado. Il y a des gens qui buvaient 24 bières par jour.
C'est ça.
Donc,
il y a comme la rétention.
Quand t'arrêtes, donc c'est pour ça qu'il faut être encadré.
Mais on ne parle pas nécessairement des quantités.
Non.
Puis j'ai déjà vu des personnes en thérapie que eux, leur problème, c'est à chaque soir... ils doivent se boire une bouteille de vin. Ouais. Ils sont pas capables de pas boire une bouteille de vin à chaque soir. Puis pour eux, c'est un problème. Alors qu'il y en a deux qui en a d'autres qui boivent 24 bières. Donc, on fait pas de distinction sur les quantités.
Non. C'est vraiment la perte de maîtrise.
Exact.
C'est vraiment ça qui est la clé.
Fait que si les gens pensent que c'est des ivrognes puis il faut se ramasser comme dans la rue à consommer...
Ah, t'es vraiment pas obligé.
C'est vraiment pas là.
C'est un des plus grands obstacles à demander de l'aide, je pense, c'est la comparaison.
C'est ça.
Moi, je me compare à moi.
Mais moi, ça a été ça, mon problème. Moi, j'étais sainte, Marie-Pierre. J'étais celle qui envoyait le monde en thérapie. Moi, je voyais ça de loin.
Un grand cœur.
Hein? Ah, moi, je te dis, là, j'avais le bonheur et le bien-être des autres à cœur. Puis, je savais détecter les signaux. Hein? Ça prend un dépendant pour en aider un autre. Ouais. Non, mais avant même de reconnaître mon propre problème. Puis, comme je me comparais à des gens dont je considérais le problème plus grand que le mien, bien, moi, je n'étais pas capable de m'identifier. Fait que c'est pour ça aussi que ça devient traître, parce que évidemment que tu ne vas pas te comparer à moins pire que toi.
C'est
là où c'est insidieux. Moi, dans ma consommation, à travers les années, c'est bien certain que ça n'a pas été de la marde de A à Z. Là. Ça a été le fun pendant longtemps, puis ça a été récréatif longtemps. Puis ton cercle s'adapte parce que tu ne peux pas te sentir jugé. Donc là, tu commences à te tenir avec des gens. Puis là, ces gens-là consomment comme toi. Puis à un moment donné, toi, ta consommation, elle augmente. Fait que là, tu peux plus te tenir avec ces gens-là. Fait que là, oups, tu changes de gang. Et ainsi de suite. Fait qu'à un moment donné, tu te tiens juste avec des gens qui ont une consommation problématique, ce qui fait que c'est banalisé et que ça a l'air normal. Mais tu te tiens tout avec des gens qui sont pas normales.
Jusqu'à éventuellement arriver que la seule normalité, c'est quand tu es tout seul avec toi parce que tu te sens jugé par les autres.
C'est ça.
Là, il y a l'isolement. Là, c'est tout ce qui nourrit cette maladie-là. Parce que dans l'isolement, tu te réveilles, tu es dans la honte, tu te compares, tu vois que la société avance,
continue
bouge,
de fonctionner.
Toi,
c'est
ça. Mais toi, ton monde tourne autour de la consommation. Moi, j'ai un ami... Salut, Jeff. J'ai tellement ri quand il me disait ça. Lui, son gros problème, c'était l'alcool. Et son gros problème, c'était de cacher les canettes vides.
Ah, c'est ça. J'entends.
À un moment donné, quand tu as rempli ton bac de recyclage, puis dernièrement, il a rénové sa maison, puis dans le faux plafond du sous-sol qu'il rénovait, c'était un des endroits où il cachait ça. Donc, il y a vraiment des histoires, puis chacun, c'est différent. On ne peut pas y aller avec la quantité.
Non.
Parce que physiologiquement, il y a des gens qui sont capables de consommer, on parle d'alcool.
Là, il y a des gros buveurs, là.
Il y en a qui sont des gros buveurs, mais ils sont fonctionnels. Donc, eux, ils n'en ont pas de problème. C'est ça qui est dangereux.
Est-ce que je suis dans l'erreur de penser qu'on peut différencier le gros buveur de l'alcoolique par l'autodestruction?
La perte de maîtrise.
Bien, en fait, tu sais, mettons, quelqu'un qui est un gros buveur, qui fait pas de mal à personne, qui a pas le vin triste, qui est bien, qui est fonctionnel, qui met pas sa famille en danger, qui se met pas en danger, c'est un gros buveur.
C'est ça.
L'alcoolique, c'est l'espèce de souffrance intérieure, de vide,
mais
de malaise, de d'autodestruction.
C'est ça. Donc, tout est centré autour de ça.
C'est ça.
Quelqu'un, si je peux donner quelques pistes, disons que si moi, je rechercherais quelqu'un qui me dirait c'est quoi la dépendance entre je suis un gros buveur ou je suis un alcoolique, quand ta vie tourne autour de ça, quand tu commences à calculer à quelle heure tu vas au travail, tes pauses, tu sais, c'est comme quand tout est centré là-dessus ou si tu consommes d'autres choses, ta journée, tant que tu n'as pas parlé à ton pusher qui te confirme qu'à 5h15, il est à tel endroit pour t'en donner, ta vie ne va pas bien tant que tu n'as pas ça. Mais ça, c'est des signes qui sont vraiment clairs que
les signes.
Puis oui, mais puis c'est pas obligé d'être dans la journée. Parce que moi, mettons, je partais le décompte, puis là, je savais que ma prochaine journée congé, c'était dans un mois.
C'est ça.
Mais fait que là, j'avais mes yeux là, sur la journée où je savais que le vendredi soir, je pouvais embarquer dans la soucoupe, comme j'appelais ça. Parce que tu sais, quand la soucoupe, elle décolle, mais tu sais jamais quand elle atterrit. Puis là, le samedi, j'étais off. Fait que là, je m'enlignais vers ça. Puis c'est là aussi que ça devenait de l'automédicamentation, puis que je gérais ça de cette façon-là, parce que fallait qu'à un moment donné, la steam sorte. Fallait que l'anxiété, puis le sentiment de trop en faire, puis de trop travailler, bien, ça passait là-dedans.
C'est l'exutoire.
C'est ça.
C'est ce qu'on utilise pour tout. C'est ça. C'est ça.
Puis c'est là que ça a pas de sens. Pour moi, c'est très personnel, mais je pense que tant que tu ne prends pas ta première consommation, on parle souvent de la première.
Ouais.
Tu es capable d'être super fonctionnel.
En rétablissement.
Alors, tu sais, le point, c'est que un, c'est trop, 100, c'est pas assez. Mm. Tu sais, je pense que les dépendants, puis tous les gens autour de la table ici, on est des dépendants en rétablissement, donc on parle de notre expérience. On a ce point-là en commun. Les demi-mesures, là, on connaît pas ça. C'est souvent les choses dans l'excès.
Je vais juste mettre un petit bémol, OK? Je veux que ça soit clair que c'est la façon dont nous avons choisi de nous rétablir.
Ouais.
Il y a d'autres méthodes.
Oui.
Par exemple, au niveau des CRD, on appelle ça la réduction des méfaits. Vous avez sûrement vu les publicités. Un homme, ça devrait consommer tant de consommation, tant de fois par semaine et tout ça. Pour certaines personnes, ça fonctionne. C'est des fois, juste de nous faire dire, OK, j'ai perdu mon permis de conduire une première fois. Il faut vraiment que je change quelque chose. Puis là, on commence à calculer puis tout ça. Pour certains, ça fonctionne. Moi, dans mon cas, et je pense dans le vôtre, c'est une méthode où c'est beaucoup plus simple de maintenir une vie de qualité en n'ayant pas ce combat-là puis ce compte-là à faire quotidiennement.
Mais c'est, on dirait que tu consommes, mais sur les freins, comme on dit en rétablissement.
Et voilà, c'est exactement
Alors, pour moi,
ça.
La pour décision, puis celle que moi, j'ai choisi de faire, c'est d'être complètement abstinent de substances qui altéraient mon comportement. Donc, peu importe la substance, j'ai décidé de ne pas consommer et ça fait 3 ans et demi. Donc, pour moi, je sais que je suis safe tant que je ne prends pas ma première consommation. C'est là que tu reconnais c'est qui la personne qui a un problème d'alcool. Donc, si tu es capable de prendre un verre de vin à tous les jours pour les prochains 30 jours, normalement, tu n'as pas un problème. Si tu es capable de t'arrêter à un, moi, c'est ça que je dis parfois à des personnes. Est-ce que c'est une bonne façon de gauger? Je pense que c'est la façon, pour moi, si tu es capable de juste prendre un.
Mais en même temps, ça dépend, parce que si tu en as besoin de ce verre-là, c'est, ça aussi, ça peut quasiment devenir problématique. T'sais, quand ça,
moi,
quand toute ta journée...
Verre, ça n'aurait jamais été assez.
Mais non, moi non plus. Exact. Mais pour quelqu'un, si toute sa journée est construite en fonction de se rendre à ce verre de vin-là, ben peut-être que son verre est problématique aussi. T'sais, fait que c'est pour ça que
c'est individuel. On ne peut pas mettre
un cadre, un frame autour, pour
dire, voici, là, tu es dépendant ou tu es alcoolique ou toxicomane, et là, tu ne l'es pas. C'est vraiment pas ça.
Je trouverais ça le fun de parler de la pandémie parce qu'on est en train de tranquillement s'en sortir. Ça a été un peu une catastrophe, je pense.
Ben, au niveau de la dépendance.
La pandémie a été une catastrophe à plein niveau, mais spécifiquement pour la dépendance. Toi, tu es intervenante, tu étais en maison de thérapie au moment où ça se passait. Dans quel état vous avez accueilli les gens? Est-ce qu'il y a eu une grosse hausse de demandes?
Bien, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, je parle toujours à l'époque, je travaillais pour les maisons Péladeau, où du côté des hommes, il y a 11 chambres doubles, puis du côté des femmes, il y a 8 chambres doubles. De par la proximité, on est obligé de couper de moitié. Toutes les chambres sont devenues individuelles. Donc, ça a amené une liste d'attente. Et je sais, j'ai des amis qui travaillent dans d'autres maisons. C'est quelque chose qui est arrivé un peu partout. Et il y a même eu des éclosions dans certains endroits où ils ont été obligés de fermer, décontaminer et tout. Donc, à ce niveau-là, déjà là, au niveau de l'infrastructure de soutien,
c'était complexe.
Ça a été difficile. Mais en plus, puis je pense que c'est là que tu veux nous amener, puis ça a été prouvé, les chiffres sont sortis, je vais te laisser les dire, là. Puis ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que c'était, on parle des 3 premiers mois de la pandémie, ce que tu vas donner comme chiffre.
En fait, c'est ça, il y a un article du Devoir qui était sorti qui parlait du premier trimestre, donc celui qui se serait terminé en septembre 2020. À la SAQ, il y a eu une augmentation des ventes de 47 % d'achats en magasin et 87 % d'achats en ligne. Fait que, tu sais, s'il y a du monde qui l'ont acheté, cet alcool-là, ça veut dire qu'il y a du monde qui l'ont bu. Et il y a une étude aussi qui est sortie qui rapporte que 33 % des Québécois ont admis avoir augmenté leur consommation d'alcool durant la pandémie. C'est beaucoup, là.
Bien, c'est socialement, c'est pour ça que je suis content qu'on parle vraiment de l'alcool, parce qu'on n'a pas les chiffres de la SQDC et tout ça.
Mais ça doit être...
En même temps, c'est que c'est un réflexe, je pense, de société, parce que ça fait du bien... quand tu n'as pas la dépendance, d'arriver chez soi puis de prendre un petit verre pour décompresser, pour relaxer. C'est juste que là, la situation était tellement extraordinaire que là, ben, ce geste-là est devenu de plus en plus fréquent pour alléger ce mal-être et ce malaise-là
qui était collectif. L'anxiété qu'on vivait tous. Oui. Mais ce qui est particulier, en fait, c'est que habituellement, cet alcool-là aurait été probablement bu dans des contextes sociaux. Donc, dans des soupers, dans des soirées, dans des parties, dans des bars, dans des restaurants. Mais là, ça s'est fait tout seul à la maison.
Tout seul ou en famille, mais tu n'avais pas à prendre ta voiture après. Donc ça, souvent, quand tu sais que tu vas prendre ton auto, ça te permet d'essayer peut-être de ralentir, comme tu disais, d'être sur les breaks.
Ouais.
Mais là, tu n'avais plus ces freins-là. Mais
il y a le fait aussi que les gens attendaient souvent d'avoir fini de travailler à 17 heures pour déboucher une bière.
Quand tu es à la maison.
Donc, télétravail. J'ai entendu dans des salles des gens qui ont partagé qu'ils commençaient à boire à midi là, dans leur tasse de café, puis ça paraissait pas sur une rencontre Zoom. Donc, tu peux te fumer.
Oui, puis tu sens pas l'alcool.
Tu sens pas le pétard.
Le contexte a vraiment permis que, disons que des gens qui étaient borderline, tu vas prendre ton expression tout à l'heure, gros buveur versus indépendant, bien là, cette ligne-là, c'est comme aminci.
Le plafond de verre, il a éclaté.
Ouais.
On a quelqu'un ici qui travaille dans le domaine depuis quelques 24 heures. Puis, je sais pas si tu peux nous dire, là, concrètement, là, aujourd'hui, moi, je souffre de dépendance. Je pense que je me reconnais dans qu'est-ce qu'on a discuté. C'est quoi la première chose que je pourrais faire?
Bien, la première chose, puis je suis content que la société, ces jours-ci, s'ouvre beaucoup. Tu as mentionné le cas de Carey Price qui a demandé de l'aide, Jonathan Drouin. On parle des gens les plus connus, là, bon, si vous êtes fan des Canadiens, comme moi. La première chose, c'est qu'il faut avoir l'humilité de demander de l'aide.
Ouais.
Puis des fois, c'est une humilité forcée parce que c'est la troisième fois que tu perds ton permis de conduire, puis c'est le juge qui va te la donner, l'humilité. Donc, moi, j'aime à dire que des fois, c'est le bon sens, mais des fois, c'est la souffrance. Et malheureusement, avec mon expérience personnelle ou de travail avec des alcooliques toxicomanes, c'est souvent la souffrance qui va faire qu'on demande de l'aide.
Oui.
C'est ça le point en commun. La souffrance, puis là, tu vas en thérapie pour, ben, pour arrêter de souffrir.
Parce que l'automédication, tu en as parlé tout à l'heure, Marie-Pierre, l'automédication, c'est souvent, on se dit, ah ben moi, j'ai un problème d'alcool, donc je vais en consommer moins, mais je vais prendre la coke, je vais fumer du pot ou, tu sais, puis là, après ça, on parlait tout à l'heure de sevrage, là, je vais complètement ailleurs, mais je veux que ce soit important. On parlait du danger du sevrage d'alcool. Un autre des sevrages qui est très, très dangereux, c'est les médicaments.
Ah, les médicaments, ben oui.
Les médicaments, moi, je vous le dis tout de suite, c'est un warning, en gros, là. Il ne faut pas décider d'arrêter tout seul. Il faut vraiment arrêter sous supervision médicale. C'est très, très, très dangereux. Et on parle autant de médicaments physiques que des médicaments pour le côté psychologique, antidépresseurs, tout ça. Il y a un protocole de sevrage. Et c'est important. Je suis désolé de ne pas l'avoir mentionné.
Mais on peut parler, si vous permettez, de substances. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez discuter, comme Marie-Pierre? Je pense que, pour mettre un peu de contexte, est-ce que c'est quelque chose que tu es ouverte à discuter?
Bien, aujourd'hui, oui. Si on fait un petit voyage dans le temps, au mois de mai, moi, j'ai participé à une émission qui s'appelle « Tout le monde en parle », puis j'avais 9 mois d'abstinence, t'es sur un hot seat, t'as 12 minutes. Fait que, tu sais, t'essaies de faire au mieux de tes capacités, puis on m'a posé la question, qu'est-ce que tu consommais? Puis moi, dans ma tête, avec la notion de compréhension aussi de c'est quoi l'alcoolisme, la dépendance, en étant dans les salles, on m'avait appris que la substance, pas vraiment grave, parce que ce qui est important, c'est de reconnaître justement que tu as un problème. Fait que moi, j'ai répondu ça, puis je trouvais que ce qui était important de faire, je l'avais fait. C'était de dire « Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre, je suis une alcoolique, je suis dépendante, puis il faut que je me soigne. »
Tu parles de la première étape, admettre
que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Mm-hmm. Puis après ça, ça a dérangé les gens pour deux raisons. Parce que je n'ai pas nommé la substance, puis parce que j'ai parlé de maladie. Puis là, je reviens au début de notre discussion, la fameuse maladie. Moi, ce n'est pas parce que j'ai une maladie que je dois me déresponsabiliser face à elle. Moi, la façon que j'avais de réparer ce que j'ai fait de pas correct dans ma vie, c'était d'arrêter de consommer puis de régler tous les comportements qui étaient nocifs dans ma vie puis qui faisaient en sorte que tout était tout croche. Tu sais, si, mettons, moi, demain matin, là, je suis allergique aux peanuts, là. Mais moi, ma responsabilité face à ma maladie, c'est de pas en manger parce que si j'en mange, je vais mourir. Mais c'est un peu la même façon qu'il faut que je traite ma maladie à moi, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas peur d'en parler du fait que je suis une alcoolique puis que la drogue que je consommais, moi, c'était la cocaïne. J'en parle puis j'ai le cœur qui me débat. Mon Dieu, je trouve ça... Je vais prendre une petite seconde.
Prends ton temps.
J'en ai pas parlé aussi pour la simple et bonne raison que si on se fie à l'historique, mettons au Québec, il y en a très peu des femmes qui ont nommé la substance. Puis là, je vais la nommer parce qu'elle l'a déjà fait par le passé. C'est France Castel qui l'a fait il y a très longtemps. Puis on en a fait une tête de turc pendant je sais pas combien d'années. Fait que c'est certain que ça donne pas envie à une autre femme de le faire. Après ça, il y a des gens qui sont sortis dans les dernières années, puis chapeau à elle de l'avoir faite. Puis moi, ça m'a donné espoir. Mais on dirait qu'il y a quelque chose d'accepté dans le fait qu'un homme ait consommé de la cocaïne. T'sais, puis là, je vais parler de Sylvain Marcel, je vais parler de Maxime Martin, je vais parler d'Éric Lapointe. Quelque chose de rock, quelque chose de la vie tournée, quelque chose d'un peu accepté, de dédouané. Mais quand c'est une femme qui parle de consommation, on tombe immédiatement dans le jugement, dans la destruction, dans les insultes. Puis pour être très franc avec vous autres, moi, quand j'ai consommé de la cocaïne, dans les soirées où j'en ai fait avec autant de filles que de gars, tu sais. Fait que c'est fou de penser que c'est une drogue de gars. Parce que quand t'as un problème d'estime de toi, quand t'as un problème d'image, quand t'es pas capable de t'aimer, quand t'es pas capable de vivre en société, que tu fais de l'anxiété sociale mais que tu le sais pas, la cocaïne devient vraiment le Saint Graal parce que t'as l'impression que t'es meilleur, que t'es plus drôle, que t'es plus intelligent, que t'as plus de répartie, que t'as plus de confiance en toi, que t'es plus hot. Moi, j'étais convaincue que les gens aimaient mieux la version en consommation de moi. J'avais réussi à me vendre cette idée-là, qui est totalement mensongère.
Et après ça, on remet des masques.
Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu viens tanner de vivre avec ce masque-là. Puis je me suis dit, aujourd'hui, j'ai le goût d'en parler parce que là, j'ai 1 an et 4 mois d'abstinence qui est encore très, très peu dans mon rétablissement. Puis je le sais, puis je prends rien pour acquis. Sauf que s'il y a une fille à quelque part qui se dit, hey, mon Dieu, moi, j'aurais pas pensé qu'elle a consommé ça puis qu'elle avait un problème avec cette drogue-là, j'ai le goût de dire, fais attention. Parce que jusqu'à tout récemment, je pensais pas moi non plus avoir un problème avec cette substance-là, puis c'est insidieux. Ça rentre dans ta vie, puis ça s'installe, puis ça fait des petits, puis c'est ça qui devient le danger avec cette drogue-là, mais avec n'importe quelle substance.
Puis je pense qu'il y a personne qui consomme qui se dit « j'ai un problème au début ». Tu sais, la part des personnes se
non,
disent
« au début, t'en as
j'ai
peur.
Un contrôle
eh ». Oui.
Tu penses que t'as un contrôle au début.
Ouais.
Moi, j'étais là. Je pensais que j'avais un contrôle jusqu'à temps qu'il y a eu comme une genre d'intervention de ma famille. Ça, c'est quelque chose de très personnel que je vous partage. Mais tu sais, quand que ton père, ton frère, ta soeur s'assoient et ils disent « t'as un problème », puis que là, t'es face à ça, moi, j'ai pas eu de problème au début d'admettre que j'avais un problème. J'ai pas eu de problème de dire « j'arrête ». Puis d'être absolument sincère, j'ai dit « je vous promets, c'est terminé ». Ça, c'était avant de faire des thérapies. Et 2-3 jours plus tard, je recontinuais à consommer, alors que je m'étais promis à moi-même aussi. Donc, c'était ça l'aspect qui était difficile. C'était de mentir à son entourage, ça, c'est difficile. C'était de mettre des masques, de mentir, ça, c'est tough. Mais de se mentir à soi-même, de ne plus être capable de se regarder dans le miroir, pour moi, c'est ça quand j'ai réalisé que j'ai frappé un bas-fond. On parle souvent de ça. Hein?
C'est, ouais.
Les bas-fonds, ça peut être différent pour chacun des individus. Moi, j'ai réalisé que j'avais frappé un bas-fond quand je me mentais à moi-même. Et je suis chanceux parce que je travaille avec ma famille. On est des Italiens, on s'aime fort, on s'haït fort, tu sais, tout fort. Puis eux, ils m'ont inscrit, ils m'ont envoyé, si on veut, en thérapie. Et on m'a conduit en thérapie. Puis je savais pas c'était quoi. Dans ma tête, là, je vais être couché dans un lit. Puis
ah oui, attaché.
Attaché, mais c'était pas ça du tout. C'était ouais. Juste de l'amour.
Ouais.
C'est ça que j'avais besoin. Dans les salles de réunion, là, j'ai juste connu de la vraie amour, des gens honnêtes, des gens qui sont là pour t'aider, qui attendent rien en retour.
Les fraternités anonymes. Ouais. Moi, là, ça a été une révélation, puis j'en parle, puis je vous le dis, là, ça vient vraiment me toucher parce que on est dans une société qui est de plus en plus individualiste et qui est de plus en plus en colère. Moi, je le dis souvent, moi, je suis malade, mais notre société l'est aussi. Quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que du négatif, puis c'est une roue qui tourne dans le négativisme, puis on se tire tous vers le bas. Et là, tu arrives dans une salle de meeting et ça te réconcilie avec l'humain. Parce que là, tu vas voir de l'ouverture d'esprit, de la bonne volonté, du pardon, de l'écoute, de l'humanité, de l'amour, de la générosité. Moi, je suis rentrée là, puis les deux bras me sont tombés. Puis je me suis jamais autant sentie chez moi que dans un sous-sol d'église. Tu sais, c'est quand même capoté, là. Tu te dis, ça me semble c'est pas winner. Hey, attends, notre société aurait besoin d'un meeting de fraternité anonyme parce que c'est de se rappeler que l'erreur est humaine, mais qu'il y a une façon de s'en sortir, qu'il y a une façon de se relever, puis de continuer d'avancer,
façon,
mais c'est de s'aider.
C'est le nous, c'est ensemble.
C'est ça.
J'ai jamais connu de personnes qui se sont rétablies seules. Alors, heureusement, pour moi, il existe des solutions, puis il y a un nous, puis je pense que c'est important d'en parler de cet aspect-là du rétablissement, puis une chance que ça existe, parce que ces rencontres-là, ils ont sauvé ma vie.
Ouais, moi aussi.
Sauvé ma vie. Fait que, peu importe c'est quoi la fraternité anonyme de ton choix, sont tous excellentes, puis il y a un processus qui existe, il y a des étapes, il y a plein de choses, puis...
Mais il y a un programme.
Il y a un programme qui existe, ouais, mais moi, je ne savais pas que ça existait. C'est là que je voulais en venir, c'est... Je savais même pas qu'il y avait des solutions. Dans ma tête, j'étais tout seul à avoir ce problème-là.
Ben oui.
Fait que c'est donc bien le fun quand t'arrives dans n'importe quelle salle. Premièrement, là, c'est un regroupement de personnes que t'aurais jamais pensé qu'ils se regrouperaient ensemble. T'as des personnes âgées, t'as des jeunes, t'as des gens connus, t'as des gens pas connus, t'as des gens dans tous les domaines.
Des hommes, des femmes. Ouais.
Fait que ça, c'est tellement réconfortant.
Et tous les autres
oui.
gens.
Oui!
Très important.
Et tout le milieu. Ouais.
Ah ouais, non.
J'ai vu le micro... C'est comme une micro-société.
Et
ouais.
Voilà.
Puis... C'est tellement réconfortant de savoir que tu n'es plus seul. Tu n'es plus jamais seul. C'est ça le message que je veux que les gens entendent aujourd'hui.
Il y a une phrase fabuleuse, moi, puis on dirait qu'à chaque fois que je l'entends, ça me bouleverse. Ouais. Ils disent quand tu arrives dans les salles de meeting, reviens, on va t'aimer en attendant que toi, tu ne sois pas capable de le faire. Puis j'ai entendu des papas aussi. Moi, je ne m'aime pas assez pour me rétablir, mais je vais le faire pour mes enfants. Je vais le faire pour ceux qui m'aiment. Puis moi, ça, là, ça j'en parle, j'ai encore des frissons. Tu sais, ça, je trouve ça tellement grand.
Ouais. Tu sais, quand tu as décrit un petit peu la dépendance puis ta réalisation que tu avais un problème, tu parlais de valeur. Et je vais le dire d'une autre façon, mais ce que vous décrivez, que vous avez ressenti en faisant vos premières réunions anonymes, c'est justement des gens qui essaient de vivre selon ces valeurs-là,
ouais,
qui ne sont pas celles que tu as décrites de la société, des médias sociaux. Et c'est là qu'on se dit, mais moi, je suis bien avec ça.
Mm-hmm.
Puis, que ce soit notre famille qui nous ont inculqué ça, à un moment donné, nous, la consommation nous a éloignés de ça.
Mm-hmm. Ouais.
Et c'est pour ça que de réessayer, bon, comme on a dit tout à l'heure, il faut d'abord commencer par arrêter de consommer pour aller toucher à ça. Parce que si on consomme, on y touche pas. Puis dans le rétablissement, bien, comme tu dis, c'est de le faire ensemble. Tu sais, moi, j'ai plus de temps d'abstinence que vous.
À peine.
Mais j'ai autant.
Mais est-ce que j'ai de la misère à le nommer?
Bien, parce que pour moi, c'est pas important.
Mais okay. Moi, je vais te contredire, OK? Je vais te contredire parce que moi, ça me fait du bien de savoir que combien d'années d'abstinence?
32 ans et demi.
Mais c'est ça.
Oui.
C'est ça veut dire que... quasiment.
Est-ce que...
Angelo, t'es baveux.
Moi, c'est parce que je veux pas me vieillir, tu sais.
Moi, j'étais pas née.
T'as l'air tout jeune.
Non, mais moi, je trouve ça d'avoir rassurant parce que ça veut dire ça se fait de vivre une vie.
Fait,
moi, j'ai fait le premier tour le tour d'horloge. J'ai fait une première année, ma fête, Noël, tout ça, sans consommer. Puis là, je te regarde, puis je te trouve accompli, puis je trouve que tu as l'air serein. Moi, c'est aussi ça. T'sais. Ils disent dans les salles de meeting, « Bon, pas avant que le miracle arrive. » Puis là, tu es là, « Il est quand le Christ de miracle? » J'ai hâte. Puis on dirait que c'est ça, le Saint Graal auquel tu veux toucher, c'est la sérénité.
Ouais.
C'est cette affaire-là qui se dépose à l'intérieur de toi, qui arrête de faire mal tout le temps, puis qui arrête de te déchirer, puis c'est ça que tu représentes. Puis après ça, je suis convaincue... Moi, j'ai entendu des gens partager qu'il y avait 5 ans d'abstinence, 9 ans d'abstinence, 10 ans d'abstinence, puis qui ont les mêmes yeux pétillants que toi, tu sais. Fait que on n'est pas obligé d'avoir 32 ans d'abstinence pour se sentir bien dans sa peau. Nous, on met ce projet-là sur pied. Ça nous évite pas... En fait, ça ne nous met pas à l'abri d'une rechute.
Non, pas du tout. Il n'y
a personne qui l'est. En même temps, je pense que tant et aussi longtemps que tu restes dans ton programme et que tu restes actif, ben, c'est sûr que tu t'assures une petite sécurité, mais on ne sait jamais de quoi la vie est faite.
Ben, moi, Angelo en a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui consomme sur les breaks. Moi, je connais des gens en rétablissement sur les breaks. On appelle ça, dans une certaine fraternité, des alcooliques qui sont secs. ils ne sont pas en rétablissement. C'est de passer ta journée à dire il ne faut pas que je consomme, il ne faut pas que je consomme, il ne faut pas que je consomme. Moi, je ne veux pas de cette vie-là.
Est-ce que je peux vous donner mon truc?
Moi, je veux être heureux sans consommer.
Est-ce que je peux vous parler de mon truc?
Vas-y.
Moi, là, j'ai décidé d'arrêter de me battre. J'ai mis un genou à terre puis j'ai accepté dans ma vie que ce n'était pas pour moi. J'ai juste, ça a été l'affaire. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais j'ai accepté que malheureusement, c'était pas pour moi.
Eh hey, mais c'est quoi,
c'est un... avec ça, là.
Mais c'est un deuil.
Oui, c'est un gros deuil.
Là, c'est un processus, je pense que de deuil. Le oui. matin où tu décides de te rétablir, il faut aussi que tu enclenches ton processus de deuil dans lequel tu vas passer par plein d'étapes. La colère, l'incompréhension, le déni. Tu sais, ça fait aussi partie de ça. Puis à un moment donné, tu fais, c'est ça.
Bien, c'est moi, l'héritage qui va rester. Puis c'est. Puis, tu sais, dans ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de se battre contre ça, parce que moi, tant et aussi longtemps que je me bats contre quelque chose, je donne du pouvoir.
Ouais.
Tandis qu'à partir de quand je commence à mettre mon énergie sur un projet comme ça, c'est comme j'ai plus de temps pour me battre.
Tu construis. T'sais?
La meilleure façon au départ, là, je pense, c'est d'aller parler à quelqu'un qui est en rétablissement, un dépendant en rétablissement, qui est souvent mieux placé. Pour ma part, ma famille là, qui avait... connaissaient pas ça. Pour eux, au départ, c'était un problème de volonté. Mm-hmm. Tu sais, la bonne volonté, ouais. dans le fond, c'est ce que tu veux. Ouais. Angelo, c'est un gars de party.
Si tu
il
voudrais,
aime ça,
tu serais capable.
C'est lui qui veut vivre ça. Tandis que quand je parlais avec des gens en rétablissement, bien, eux autres, ils comprenaient sincèrement qu'est-ce que je vivais. Fait que ça, c'est réconfortant de savoir que t'es pas le seul.
Puis t'es pas fou.
T'es pas fou, ouais.
Moi, je pense que en terminant, là, ça serait ça la nuance qu'il faut qu'on apporte. On a parlé énormément de la santé mentale dans les dernières années et pour une bonne raison, parce qu'il fallait démystifier le tabou autour de la santé mentale. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de honte à parler qu'ils ont une bipolarité, un trouble de personnalité limite, de l'anxiété généralisée. On le nomme. Mon espoir... Dans ce projet-là, puis dans ce qui se passe en ce moment dans la société, c'est justement qu'on n'ait plus à se cacher, qu'on n'ait plus honte de demander de l'aide, au moins. T'sais, après ça, c'est une chose de rentrer en rétablissement, puis de faire tout le travail de fond, mais de lever la main, puis de dire, je pense que ça ne va pas, puis ce n'est pas une question de volonté, puis ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé, c'est que là, il y a quelque chose de plus gros que moi là-dedans, puis je n'arrive plus à le contrôler.
La maladie, la dépendance, qui est une maladie aussi d'ego. Souvent, on croit qu'on est en contrôle puis qu'on n'a pas besoin de personne, qu'on est capable de s'en sortir seul. Donc, le plus gros geste d'humilité, c'est d'être capable de tendre la main puis de dire « Hey, j'ai besoin d'aide. »
Bien, c'est... Oui. C'est parce que pour moi, tendre la main, c'est plus aider.
OK, ouais.
Moi, c'est plus de le verbaliser parce qu'on ne peut pas aider un dépendant qui ne veut pas s'aider.
Hey, mais attends, j'aurais une question. Là. Ouais. Mettons, là, on fait une mise en situation. Moi, il y a quelqu'un dans mon entourage qui souffre. Là. Je consciente, je le vois, on le voit que ça ne marche pas, qu'il y a vraiment une problématique au niveau de la consommation. Là, tu viens de dire qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Mais y a-t-il une façon d'aborder, au moins d'entrer en relation avec cette personne-là, puis d'essayer de lui montrer qu'il y a des options puis qu'il y a des avenues?
Bien, c'est sûr que ce qu'on fait là, c'est hyper bien. Puis donc, si quelqu'un écoute ça, puis il y a quelqu'un dans son entourage qui a le problème, bien, invitez-le à regarder ça. Parce que le but, comme on a dit au début, c'est d'aider des gens qui peut-être se posent la question « Est-ce que j'ai un problème? Ouais. » de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Tu parlais de communication. Je pense que la première chose à faire, c'est de maintenir le canal de communication.
Ouais.
Donc, c'est pas de juger, c'est pas de condamner. Il sait qu'il a fait des conneries. Il ou elle ou elle, là, maintenant, sait que ça n'a pas de sens ce qu'il vient de faire. J'ai un exemple, quelqu'un avec que je suis, il y a 3 semaines, il a fait une thérapie chez Pelado, il a rechuté dans son camion, il y a eu un accident. Tu sais, c'est comme, t'en as une évidence, là. Ça fait 3 fois, tu as 27 ans, puis que la police, tu repères ton permis de conduire. Tu n'as pas besoin de le faire sentir coupable. Tu as juste besoin de l'accueillir, mais de l'aider de la bonne façon.
T'sais, mais c'est encore ça. Là, mettons, moi, j'étais un parent, puis mon enfant, il m'a volé, il m'a menti, il m'a fraudé.
Mets des limites, puis mets des conséquences.
Mais comment qu'on fait pour continuer d'aimer, puis de continuer de tendre la main? C'est ça aussi qui peut devenir
problématique. C'est difficile. Ben, c'est pour ça qu'il y a des... Il y a de l'aide pour la famille.
Ouais.
Et on parlait des maisons Pelado. Il y a un atelier qui est hyper important.
Full.
Et moi, je le vois dans le, si je peux utiliser le mot, succès du rétablissement, c'est quand l'entourage a fait partie de cet atelier-là qui est extraordinaire. Parce qu'on ne peut pas, c'est une expression qu'on utilise entre collègues, tu ne peux pas tirer une carotte pour qu'elle pousse plus vite. Ben, c'est comme...
Et par la suite, on a parlé un petit peu de rechute, qui est une réalité qui existe,
oui.
Qui a fait partie, moi, de mon rétablissement.
Très présent. Ça, c'est, il faut le dire.
On ne parlera pas des chiffres, mais c'est
non, assez mais c'est élevé, très présent, ouais. Mais ce n'est pas nécessaire.
Ce n'est pas nécessaire, mais moi, ça a fait partie.
Ouais.
Ça m'a fait réaliser que, ben, effectivement, je ne pouvais pas le faire seul parce qu'après une première thérapie, 3 mois plus tard, j'ai eu une rechute qui a été dévastatrice et je suis retourné par moi-même. C'est moi qui ai fait cette fois-ci l'appel.
C'est ça.
Mais c'était quand même ma famille qui a planté dans ma tête cette graine d'espoir puis de rétablissement.
Mais tu sais, tu as parlé tout à l'heure un petit peu d'ego. Je vais revenir avec ça dans ce que tu dis. Je pense que dans ton cas, la rechute a fait que tout ce qu'on t'avait suggéré de faire à ta sortie pendant que tu étais en thérapie et que tu n'as pas appliqué, bien là, tu es devenu... ouvert à l'essayer.
Absolument.
Parce que ta manière à toi, qui est souvent celle que beaucoup de gens font, ils continuent le même mode de vie, mais ils ne consomment pas.
Mais j'ai vraiment aimé ça parce qu'une des choses fondamentales dans le rétablissement, c'est l'ouverture.
Mm-hmm.
Être capable d'accepter des suggestions.
Ouais.
Ça, c'est fondamental.
Ben, à la base, il faut se rappeler que notre manière à nous, là, la chose la plus intelligente qu'on a faite...
Elle marche pas.
Ben, c'est qu'elle nous emmène en thérapie. Elle marche, elle nous emmène en thérapie.
Ah oui, c'est ça.
Mais là, on se vend l'idée parce que ça fait 3 semaines qu'on consomme pas puis qu'on est des êtres qui sont foncièrement intelligents puis tout. Fait que là, nous autres, on a une meilleure manière que ceux que ça fait 70 ans.
FYI, j'ai jamais vu autant de monde intelligent dans des salles. Puis souvent, mon intervenant, je ne vais pas le nommer, des maisons Pelado me disait le kit du bon gars.
Mm-hmm.
Les gens que j'ai rencontrés dans des salles, en thérapie, à l'extérieur, les gens dans le mouvement qu'on appelle, les gens qui vivent le programme du rétablissement, mot à dit que c'est des gens qui sont des bonnes personnes fondamentalement, qu'on fait des mauvais choix, peu importe, mais c'est des bonnes personnes. Puis j'inviterais n'importe qui à juste mettre les pieds. Il y a des groupes qui sont ouverts.
Oui.
Tu peux accompagner une personne qui est dépendante. Moi, au départ, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de mon cercle de personnes qui m'accompagnaient. Maintenant, je vis le rétablissement pas mal seul, mais avant, j'avais besoin de me sentir comme accompagné là-dedans.
Sécurisé.
Sécurisé, des gens que je connais, mais il y a une chose qui est merveilleuse, c'est l'accueil. Tu sais, les gens, là, ils te donnent juste, il y a juste un grand A quand tu rentres dans une salle, c'est amour.
Mm.
Fait que j'inviterais tout le monde à aller, puis il y a des listes de meetings qui sont disponibles.
Ben, je vais ouvrir une parenthèse, puis c'est drôle parce que ma relation avec Marie-Pierre a commencé comme ça. Ça a pris un an avant qu'on se voit.
Ouais.
En 2021, il y a une nouvelle réalité pour faire une première réunion. Tu n'es même pas obligé d'appeler quelqu'un. Tu peux, moi je suggère, je sais qu'à la fin du podcast, on va mettre des liens pour les sites Internet de différentes fraternités. Il y a des réunions Zoom.
Oui.
Qui sont ouvertes.
Ça n'existait pas avant la pandémie.
Non,
là.
Ça n'existait pas.
C'était juste en présentiel.
C'est ça. Donc, tu peux aller voir.
Il y a des rencontres de meetings Zoom, mais c'est des meetings anonymes.
Oui, mais ça va être facile à trouver. Puis en appelant les lignes téléphoniques ou en allant sur le site, vous allez être bien guidé. Puis vous allez pouvoir, même en tant que famille, vous pouvez y aller pour voir.
Oui, c'est ça. C'est pas comme que les gens pensent. Hein. C'est pas un milieu qui est tellement fermé.
Non, c'est
ouvert à tous. J'ai pas vu rien de t'es pas obligé de rien faire.
Non,
non parce que tu peux... moi, il y a la maman d'une amie qui a arrêté de boire, ça fait presque 10 mois. Puis elle m'a dit, ah, je serais curieuse de voir comment ça se passe. Puis j'ai dit, mais bien.
Ben oui.
Fait que je l'ai invitée dans un meeting Zoom. J'ai dit, si t'es gênée, tu peux laisser ta caméra fermée. Donc, ça ne t'implique à rien. Puis tu peux aller voir de quoi ça a l'air un meeting, entendre aussi comment ça sonne, puis qu'est-ce que les gens disent et tout ça. Ça, je trouve ça le fun. Puis j'aimerais ça aussi en parler parce que moi, c'est quelque chose que je connaissais pas puis que je trouve extrêmement pertinent. On parle des fraternités anonymes, mais il y a aussi celles qui existent pour l'entourage. À la non, à la teen, moi, je connaissais pas ça. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui essaie de se rétablir ou qui est en consommation active, vous pouvez aller dans ces groupes-là qui sont des groupes de soutien qui vont vous aider, qui vont vous...
Donc,
vous...
des enfants qui vivent avec des parents ou des conjoints, conjointes.
Exact.
Puis, ça rejoint un petit peu ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, personnellement, mais j'ai tellement vu de parents dans cette dynamique-là. moi, je comprends que foncièrement, vous aimez votre enfant, puis vous voulez son bien. Puis ces fraternités-là, comme Alanon, leur mission est de vous faire voir que votre compréhension d'aider votre enfant
c'est pas la
versus vraie. Ce que ouais. vous êtes vraiment en train de faire pour lui, c'est complètement différent.
C'est tellement de belles nuances.
Là. Parce ouais. qu'un alcoolique toxicomane, avec l'expérience que j'ai, ça ne comprend pas par le bon sens. T'sais, l'exemple que je vous disais du jeune homme, ça se peut que ce soit sa troisième balloune, son troisième permis de conduire suspendu qui va faire que là, il est vraiment tanné de se promener à pied parce que là, son père a appris qu'il l'amènera même pas au meeting. Parce que là, lui, il vivait de la culpabilité, le père. Donc, tous les dimanches matin, il l'amenait faire un meeting. T'sais? Mais quand on dit, puis ça, c'est, j'aime pas parler de chiffres puis de statistiques, mais celui-là, pour moi, il est très véridique. Un alcoolique toxicomane dans la dépendance affecte 35 personnes autour de lui.
Wow!
T'sais? Puis, je vais vous donner un exemple, parce que là, on ne parle pas de grosses familles italiennes de 22 enfants, ouais, là, ouais. ou les vieilles familles québécoises.
Non, famille,
Moi, là, si je consomme, OK, ça affecte bien sûr la vie de ma femme, de mes enfants ou mon conjoint, là, que ce soit l'orientation que tu veux, là, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais si moi, j'affecte la vie de ma femme parce que, disons, financièrement, mon argent passe pour acheter ma consommation, bien, elle est obligée de faire de l'overtime. Ça implique la garderie, parce que les enfants vont être plus à la garderie, parce que moi, je ne suis pas là, je consomme, puis elle est en train de faire de l'overtime. Mais là, ma femme, en faisant de l'overtime, elle dit, ben peux-tu t'occuper d'aller chercher les enfants? Mais moi, je suis parti sur une goutte 3 jours. La gardienne qui est à la garderie, il faut qu'elle trouve une solution pour que les enfants reviennent à la maison. Donc, c'est tout ça, c'est exponentiel.
C'est l'effet Magnolia.
T'sais, sans compter la famille, sans compter.
C'est ça.
Et c'est pour ça que quand on se rétablit, bien, ces gens-là, c'est les premiers qui vont bénéficier de ça après nous. Parce ouais. que nous, on reprend une qualité de vie, on répare nos torts. Ça, ça fait partie du programme. Tu sais, c'est pas parce qu'on a arrêté de consommer que tout ce qu'on a fait est effacé. Puis moi, j'encourage pas à ce que ça soit effacé.
Non. On veut pas oublier
le passé.
Faut pas
que ça soit facile. Non, il faut pas que ça soit facile. Faut que je répare mes torts, parce que sinon, je vais recommencer.
Je pense que quand on parle de rétablissement et de dépendance, c'est des sujets qui sont tabous. Et on a essayé de démystifier un petit peu. On pourrait en parler pendant des heures.
C'est quoi la bonne nouvelle, Angelo?
C'est quoi la bonne nouvelle?
C'est qu'on va en faire un autre.
Oui.
Alors, breaking news. On va, notre projet, on va parler en fond du projet de podcast ou de balado Grain d'espoir pour justement aller plus en détail dans les différentes étapes, dans peu importe.
Mais plein de sujets qui sont en lien avec la consommation puis la dépendance. Vas-y.
Quel sujet?
Non, j'ai dit plein de
sujets. Il y en a plein, ben oui, c'est
mais
ça.
Mais le prochain, c'est toi qui l'as proposé, puis je trouvais ça brillant, puis il faut donner le crédit à celui qui a trouvé l'idée brillante. Mais on va le lancer très bientôt parce qu'on le sait, il y a les fêtes qui arrivent. On voulait en faire un spécifiquement pour parler justement de la période des fêtes qui peut être extrêmement difficile et confrontante pour quelqu'un qui est en établissement. C'est ça.
Puis d'ailleurs, il y a des trucs, hein, quand on commence, là, ils nous donnent des trucs concrets quand tu sors, là, puis tu dois aller dans un événement comme à Noël. Puis moi, ça m'a vraiment aidé. Fait qu'on veut partager ces affaires-là.
Mais c'est pour ça que le podcast, on en a parlé, puis le prochain qu'on va faire, qui va être bientôt, parce qu'on sait que les fêtes, ça, la date ne change pas. puis on veut vraiment amener quelque chose de concret et tout.
Un guide pratique.
Oui. Puis ouais. je veux peut-être en profiter, on n'en a pas parlé dans nos rencontres précédentes, mais les gens peuvent envoyer, s'ils ont des questions, s'ils ont des trucs qui veulent qu'on puisse les aider.
Des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, on est là pour
ça. Quelle bonne idée.
Ouais.
Donc, la prochaine étape, c'est le lancement du café Grain d'espoir qui est disponible autant en grains
que moulu.
Donc, c'est disponible dans tous les magasins Rubino à travers le Québec. Ça va être disponible aussi dans certains Mr. Puffs, dans certaines épiceries locales. Toute la liste des points de vente va se retrouver sur rubinochoose.com/espoir. À l'arrière du sac, en avant, il y a le beau logo, il y a le cœur. Donc, c'est noir sur noir, ton sur ton. Mais à l'arrière...
À l'arrière, oui, il y a un code QR juste ici que vous pouvez scanner avec votre téléphone qui va vous amener sur une page d'accueil sur laquelle il y a plein d'informations, une vidéo qui explique justement la mission du projet, des références, des liens de maison-thérapie, tout ça. Donc, toutes les informations pertinentes sont sur le site. Et moi, j'ai même envie de faire un appel à tous. Si vous êtes un commerçant, vous êtes propriétaire d'une épicerie, d'un dépanneur, d'un commerce, puis que ça vous tente de nous encourager, puis ça vous tente de distribuer le café, contactez-nous directement sur l'adresse courriel qui est sur la page d'accueil, donc du site, ben, ou directement sur Rubineau / Espoir.
C'est ça. Dans le fond, sur la page de Rubineau, rubineauchoose.com, il y a un contact. Sinon, vous envoyez un courriel à support, SUPPORT, @rubineauchoose.com, shoes, SHOES.com, puis on va vous répondre là, dans les 24 heures. Donc, si vous voulez être partenaire dans ce projet-là, si vous avez des idées pour la suite, parce qu'on lance une série de podcasts qui va s'appeler Grain d'espoir, comme le nom du café. Donc, on veut essayer de semer cette graine d'espoir dans l'esprit des gens et de démystifier toutes ces questions de la dépendance. Il y a plein de questions. Fait que ça se peut qu'il y ait des gens qui aient des questions, des gens qui aient des suggestions. On est vraiment ouvert parce que je pense que nous, on est juste trois dépendants en rétablissement. On ne détient pas la vérité ou la clé du rétablissement.
Ouais, du bonheur. Alors,
si vous la connaissez, veuillez la partager.
Appelez-nous.
Les lignes sont ouvertes.
Et alors, le numéro de Marie-Pierre qui va être en... OK, non, on va passer au prochain. Parce qu'il faut que je remercie quelques personnes. Le projet n'est pas arrivé seul. Mm-hmm. La famille Rubineau, puis merci à ma famille d'abord de me permettre de... d'en parler publiquement, parce que c'est quand même aussi pour eux, c'est s'exposer un peu. Puis moi, j'ai décidé de le faire, mais je voulais avoir l'autorité puis l'autorisation de ma famille de le faire. Et merci aussi à la famille Brossard de Café Brossard, qui sont déjà impliqués pour la cause. C'est eux autres qui ont préparé le blend. C'est un special blend. C'est ce mélange-là. Merci, je cherchais le mot. Et c'est torréfié ici à Montréal-Nord. C'est des grains qui viennent d'un petit peu partout, là, donc on ne veut pas vous dévoiler tout le détail.
La recette.
C'est un café italien.
C'est ça. Le café Grain d'espoir, il est en vente au coût de 20 $ et 100 % des profits sont remis à la cause de la dépendance. La famille Brossard qui nous a fait un prix vraiment très
incroyable,
bon. Je ne veux pas dévoiler tous ces secrets, mais disons qu'il y a une très bonne portion du 20 $ et même très, très excellente qui va pour la cause. Et ce sac de café-là va être disponible dans tous les magasins Rubineau à travers le Québec et également sur notre site web rubineauchoose.com/espoir. comme le grain d'espoir. Et souvent, pourquoi on a choisi du café? Bien, à part le fait que c'est quelque chose qui est renouvelable, qui ne va pas se ramasser dans le fond d'un tiroir, qu'on peut consommer, pour moi, le rétablissement, ça a commencé avec « Viens, on va discuter, on va prendre un… »
Café.
Un café. C'est la boisson qui est la plus consommée dans le monde. Puis, tu sais, FYI, c'est pour ça que j'ai fait un espresso avec Angelo. Puis, il y a plein de podcasts, si on va prendre un petit verre de vino ou… Moi, j'ai décidé de ne pas consommer, puis je ne juge pas personne qui consomme. Puis j'ai plus de problème aujourd'hui à aller dans un événement, puis il y a des gens qui prennent un verre.
Oui,
il n'y a aucun problème avec ça.
C'est moi
qui ai accepté que ce n'était pas pour moi.
Je pense que c'est important aussi que les gens comprennent qu'on n'est pas des anti-alcool. Là, au contraire, moi, je suis tellement contente pour ceux qui sont capables de consommer normalement, puis je leur dis toujours, prends un verre à ma santé. On n'est pas là pour faire la morale à personne. On n'est pas là pour faire peur aux gens ou les moraliser. On est là pour montrer que ça se peut, une vie sans alcool.
Et d'en parler, premièrement.
Si t'en souffres, exactement, qu'il y a des ressources, qu'on peut en parler ouvertement sans se juger. Et grâce au fonds qu'on va amasser avec le café, on a décidé d'aider trois organismes qui, eux, aident directement des dépendants qui veulent s'en sortir. Donc, on va aider à payer des thérapies. C'est ça le projet, l'objectif. Et on a choisi trois organismes qu'on aime beaucoup. Le premier, bien évidemment, je pense que ça allait de soi, c'est les Maisons Pélado.
Pourquoi?
Pourquoi, Angelo?
Mais vas-y, explique.
Parce que c'est la maison de thérapie où on est allés tous les deux.
Exact.
Où Jean-Claude a travaillé pendant plusieurs années.
Laurentides.
Dans les Laurentides. Moi, ça a sauvé ma vie. Ça a sauvé la tienne.
Oui.
Moi, je trouvais ça vraiment important qu'ils fassent partie des trois maisons qu'on choisisse. La deuxième, ça, c'est à Lanoraie. Ça s'appelle le pavillon du nouveau point de vue. Et celui-là, on l'a choisi spécifiquement parce que, oui, il traite des hommes et des femmes. Excuse-moi. Je reviens sur les Maisons Pélado.
Vas-y.
Parce que les Maisons Pélado, la raison aussi pour laquelle on les a choisies, c'est que c'est le seul centre au Québec où on traite les hommes et les femmes de façon séparée. Donc, il y a la Maison des Hommes, qui est le pavillon Pierre Pélado, et il y a la Maison des Femmes, qui est la Maison Raymond Chopin Pélado. Et moi, c'est là que j'ai trouvé ça vraiment le fun d'être capable de me rétablir avec des femmes uniquement. Ouais. Donc, c'est pour ça. Le pavillon du nouveau point de vue à la Noraie, celui-là, on l'a choisi parce qu'il y a un département jeunesse. Donc, si votre ado souffre en ce moment, si vous sentez que c'est en train de devenir problématique pour votre jeune, ça peut être un super endroit pour l'envoyer. Et on a également choisi le Rucher, qui est à Québec, qui est une super maison de thérapie, où mon ami Sylvain Marcel est porte-parole.
Mmh. Oui.
C'est ça. Il m'a regardé, il a dit non, c'est pas là qu'il a fait sa thérapie. Il a fait sa thérapie à la Noraie, mais il est porte-parole pour le Rucher.
Porte-parole voilà. Pour le Rucher.
Je vais juste faire une petite précision. Tu as parlé du programme pour ados.
Ouais.
Juste pour vous dire que cette partie-là du programme du pavillon est subventionnée.
Ah.
Donc, si vous avez un ado qui demande de l'aide, qui a un problème de dépendance, faites juste appeler à la maison. Vous n'avez pas besoin d'avoir de sous.
Alors, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Est-ce qu'il y a un petit mot?
Ah, moi, j'ai le cœur rempli ce matin. Vraiment, là, je trouve qu'on se fait un cadeau en faisant ça aussi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour vous deux. Puis, je suis fière de ça. Je suis fière de faire partie de ça. Merci.
J'ai envie de vous dire merci de m'avoir invité de participer à ce projet-là parce que ça fait partie des valeurs que j'ai, puis de continuer à transmettre que ça se peut vivre sans consommer, puis être heureux, puis changer à notre façon, une seconde à la fois, une journée à la fois, la vie de notre entourage.
Absolument. Moi, j'aimerais juste prendre un petit deux secondes pour remercier Pierre Manning et son équipe chez Shoot Studio qui ont fait les photos, qui se retrouvent justement sur la page d'accueil. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection aussi pour Pierre qui a fait ça pour la cause avec nous. Donc, merci infiniment, Pierre. C'est très gentil. Puis les photos sont bien belles.
Bien, merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je voudrais remercier plusieurs personnes. Le producteur du podcast, Francis Parent-Valiquette, qui est normalement le co-animateur d'Un Espresso avec Angelo. C'est quelque chose qu'il connaît, la cause de la dépendance. Puis j'aimerais ça qu'un jour, il fasse partie d'un des épisodes de Grain d'espoir. Ça lui appartient. Donc, j'ai lancé la perche. Aussi, à la recherche, Anthony Leclerc. C'est lui qui nous a aidé à préparer l'épisode d'aujourd'hui. Je le remercie. J'aimerais ça aussi, encore une fois, remercier ma famille. Remercier ma conjointe, remercier mes enfants d'exister, remercier tous les membres qui m'ont, influencé dans mon rétablissement positivement. Ceci, c'est le premier pas vers peut-être la réussite. On aimerait ça faire une différence pour la cause sans aucune prétention. Je souhaite juste que ça puisse aider une personne à quelque part. C'est ça mon seul souhait, c'est... Puis sans aucune, encore une fois, prétention, je vous remercie pour votre écoute. Si vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage, c'est toujours apprécié. Et sur ce, je vous dis, it's a wrap.